Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur CFM Radio pour un nouveau numéro de Carnet de Correspondance. L'émission qui vous embarque pendant une petite demi-heure, à nouveau, dans le bahut, dans le collège, dans le lycée, sur les bancs de l'école aussi, pour vous ouvrir un peu aux coulisses de ce qui se trame au sein de l'éducation nationale. Quelles sont les politiques qui sont envisagées contre certains fléaux, comme on va le voir aujourd'hui, mais aussi qu'est-ce qui est fait, que ce soit par les équipes professorales, mais aussi les élèves, on leur place ici au micro de CFM Radio pour nous parler de leur quotidien, leur vécu dans leurs établissements scolaires. Une émission en partenariat avec le collège Valsiroux de Cordes-sur-Ciel. Nous sommes en compagnie de monsieur Jean-Marc Robin, le principal de ce collège. Bonjour.
Bonjour Jack.
La semaine dernière, Jean-Marc, on parlait du harcèlement scolaire, un fléau actuellement dans les établissements scolaires français où 10% des élèves sont touchés par ce fait qui n'est pas de société, car il remonte à Mathusalem presque, depuis que l'école est école, mais ces 10% d'élèves, ça représente plus d'un million des élèves qui fréquentent les établissements, pour montrer que c'est très très important, très impactant aussi, car ça peut conduire certains à délaisser aussi les apprentissages. On traite de ce sujet avec une des personnes de l'équipe professorale qui est, on va dire, à la proue de la vigie face à ce fléau. C'est Madame Fouquet, qui est l'infirmière du collège de Cordes-sur-Ciel. Bonjour Madame Fouquet.
Bonjour Jacques.
Alors, si dans le premier numéro qui a été consacré à ce harcèlement scolaire, on renvoie les auditeurs vers le podcast sur notre site internet, dans ce premier numéro, nous étions plus focalisés sur les nouvelles mesures prises pour lutter contre ce fléau. Tu nous l'as rappelé, monsieur Robin. Madame Fouquet nous a rappelé aussi quels pouvaient être les signes annonciateurs, soit d'élèves qui subissaient le harcèlement, mais aussi, on a parlé des élèves harceleurs, parce que même si c'est un peu là comme ça, lorsqu'on traite de ce sujet, ils sont considérés comme des brutes. Ils sont aussi à prendre en considération, parce que c'est souvent révélateur de quelque chose que eux-mêmes ont subi ou subissent peut-être aussi au quotidien. Dans cette émission aujourd'hui, dans ce numéro aujourd'hui, on va plus se cantonner aux solutions, aux postures à adopter face à ce fléau-là, et commençons déjà à parler des élèves qui subissent vraiment le harcèlement, monsieur Robin. Si je suis un élève, qu'est-ce que je dois faire si je me sens harcelé?
Je pense que la première chose, c'est bien sûr rompre ce mur du silence, cette peur, et puis en parler. Alors, peu importe à qui on parle, on parle à un camarade, et on sait que ce camarade va venir après relayer l'information qu'il a reçue auprès des éducateurs, on parle bien sûr à ses parents, on parle à son professeur principal. On peut bien sûr, si on ne trouve pas de ressources dans l'établissement, appeler. On peut appeler le 3020, c'est un numéro vert qui permet aux élèves d'appeler. Concrètement, ce qui se passe après, c'est qu'après, nous, on nous informe, nous, l'établissement scolaire, pour qu'on puisse s'emparer du sujet et le traiter. Si c'est donc du harcèlement classique, c'est le 3020. Si c'est du cyberharcèlement, c'est le 3018. Donc la première chose, c'est de rompre ce mur du silence et d'en parler aux acteurs comme notre infirmière.
Oui. Mais d'ailleurs, Madame Fouquet, vous, en tant qu'infirmière au sein d'un collège, celui de Cordes-sur-Ciel en l'occurrence, quel est votre rôle sur, on va dire, cette thématique-là en matière de harcèlement?
En matière de harcèlement, l'idée, le rôle, la mission principale, c'est de recevoir la parole des élèves, que ce soit l'élève victime, que ce soit l'élève témoin qui vient signaler et qui ose venir signaler. Celui-là, il a une importance, il a une importance extrême, je dirais, parce que effectivement, quand l'élève qui a peur, comme on le disait sur la précédente émission, cet élève qui a peur ne va pas venir parler. Par contre, quand il se décide à parler, pour nous, c'est formidable, mais quand c'est un élève témoin qui vient apporter l'information pour nous signaler un élève
c'est un
en
peu
souffrance,
plus délicat.
Voilà, c'est plus délicat, mais ça reste pour nous du pain béni parce qu'au moins on a l'information. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir vraiment ces informations et pouvoir recevoir la parole des élèves. Et puis, il faut éclairer cette situation avec tous les membres de l'équipe, et c'est là où le regard croisé dont on parlait aussi précédemment a une importance. Aussi dans le sens où tous les éléments qu'on va pouvoir recueillir vont nous aider à clarifier la situation, à l'affiner, à essayer d'améliorer la prise en charge qu'on aura par rapport à cette situation. Il faut parce qu'il va falloir identifier les personnes en cause, en plus de cette personne victime, recevoir la victime, la prendre en charge tout en étant dans la bienveillance, dans l'empathie, hein, parce qu'il faut, on a un vrai rôle de posture, nous, dans l'écoute et dans la relation d'aide qu'on va apporter à ce jeune en souffrance. Hein. Et puis, effectivement, il faudra faire un travail avec les parents. Les parents sont partenaires. Hein.
Mmh. Donc on les alerte tout de suite.
Alors, on les appelle au plus tôt, parce que ce sont eux les référents. Et il faut qu'ils aient l'information. C'est vrai que ça se fait assez vite.
Alors, on se partage un peu le
rôle. Parce que, voilà.
Marie-Laure, notre infirmière, va appeler plutôt les parents des victimes. Et moi, j'ai plutôt, quand on les a identifiés, à appeler les parents des intimidateurs. Mm-hmm. Alors, il faut faire attention.
C'est en fonction de nos compétences et de nos fonctions. Hein,
oui,
c'est,
Et notre rôle, hein, puisque moi, je vais parfois être dans le rôle de la éducatif, mais aussi dans la sanction, dont ça prend tout son sens quand c'est le chef d'établissement qui intervient. Il faut faire attention aux mots, parce que sur le harcèlement, parfois, c'est de l'intimidation. Alors, on peut bien sûr faire un parallèle entre le harcèlement et l'intimidation. L'intimidation, je dirais, c'est le degré au-dessous, quoi. Hein, c'est-à-dire, c'est la phase où on peut, et on le verra tout à l'heure, par des méthodes peut-être d'accompagnement des élèves, éviter que ça dérape en harcèlement dur. Évidemment, quand le harcèlement est vraiment mis en place, et là, effectivement, on va être plutôt du côté de la sanction, on en parlera tout à l'heure.
Et puis, en parler aux parents, c'est pas toujours simple, hein, parce on est face à des familles qui peuvent culpabiliser de ne pas avoir vu les faits, de ne pas,
dans
pas avoir été
attentif.
Hein, oui. Donc, l'annoncer à des parents, c'est quelque chose qu'il faut faire avec un peu de douceur. Hein. Je dis pas que vous n'êtes pas en mesure, mais non, je dis que c'est en fonction de...
Il va avec une batte de baseball. Oui. On parle de la prévention aussi, parce que dans vos prérogatives aussi,
oui,
il y a ça.
Oui, parce que informer les élèves, les sensibiliser, justement, c'est essentiel.
Ça, c'est essentiel.
Alors, c'est vrai que, il y a certaines matières où on peut travailler la prévention harcèlement dans le cadre des compétences croisées. Mm-hmm. Bon, c'est vrai que j'ai un rôle de prévention auprès des élèves pour justement repositionner les choses, tout niveau confondu, parce que tous les élèves ont cette information autour du harcèlement. Quelquefois, ils en ont même un peu... ils ont l'impression d'entendre tout le temps les choses.
Toujours la même chose, ouais.
Mais
d'ailleurs, il y a un quota d'heures, non, que vous devez respecter maintenant par rapport à ça, hein, pour que l'information soit bien...
En fait, dans le petit phare, il faut viser 10 heures d'apprentissage, mais... Dans l'apprentissage, c'est pas forcément.
C'est pas ça peut être en compétences croisées.
Ça peut être des compétences, par exemple, autour de la fraternité. C'est pas forcément. Ça peut être une pédagogie du détour. Hein,
c'est pas forcément
parler
directement.
Par exemple, moi, quand j'interviens dans les classes et avec Marie-Laure, moi, je vais être du côté de c'est un délit. Attention, dans le code de l'éducation, on a inscrit le droit à une scolarité sans harcèlement. Si le harcèlement, ça peut être puni jusqu'à 10 ans de prison. Enfin. Il y a des conséquences qui peuvent être très importantes, quoi. Voilà. Donc, il faut aussi mettre en place des actions qui soient des actions qui renforcent la dynamique de groupe, mais positive. Mmh. Hein, c'est ça qui est important.
Une fois que vous avez identifié un cas de harcèlement, que vous avez discuté avec les élèves en cause, peut-être pris contact avec les parents aussi, qu'est-ce qui se passe au sein d'un établissement? Est-ce que vous êtes obligé d'informer, votre hiérarchie, que ça remonte jusqu'au ministère? Est-ce qu'il y a une base de données, par exemple, qui est obligatoirement à renseigner dans ces cas-là?
Alors, en fait, ici, clairement, on a reçu des consignes très, très strictes, hein, l'expertise d'académie, c'est que toutes les situations confirmées de harcèlement doivent faire l'objet d'un signalement à l'inspection académique. En fait, on a ce qu'on appelle un intranet, pour faire simple, avec une application qui s'appelle Faits d'établissement, où on signale tous les faits d'établissement, les violences, le harcèlement, etc. Et en fonction du niveau de gravité, ça peut être de 1 à 4, et donc le harcèlement, ce sera au moins 3, voire 4. Ce qui veut dire que l'inspection académique sera au courant, ce qui veut dire que le rectorat sera au courant. Et si on juge évidemment qu'il y a une urgence, on peut aussi faire un signalement directement auprès du procureur de la République. Hein.
Donc ça peut passer directement en cas judiciaire.
Absolument, ça peut. C'est vrai que dans les situations de harcèlement confirmées et graves, les chefs d'établissement, par exemple, invitent les parents à porter plainte. Mais il faut savoir que si jamais les parents ne portaient pas plainte, nous, en quelque sorte, on prend la main et on signale les faits au procureur de la République. Hein. Pour que ce soit traité sur le plan judiciaire, parce que là, c'est trop grave.
Oui, Madame Fouquet.
Je voulais compléter un peu sur, en matière de prévention, sur le volet prévention. parce que j'anime des séances de renforcement de l'estime de soi. On parle d'estime de soi
très baissée. Important, ça, oui.
Et voilà, c'est pour ça que je me permets de reprendre la conversation sur ce thème, parce que ces séances de renforcement de l'estime de soi sont essentielles. Alors là, elles sont ciblées auprès des élèves de 6e cette année, donc à raison d'une heure par semaine, par groupe. Les élèves de 6e sont répartis en 3 groupes et bénéficient d'une heure par groupe, justement, pour ces séances de renforcement d'estime de soi. Alors, Monsieur Robin a fait quelque chose de formidable cette année, c'est qu'il a pu trouver des créneaux pour intégrer ces
dans
heures de
temps.
Renforcement dans l'emploi du temps, l'emploi du temps des élèves de 6e. C'est quelque chose de très novateur et moi,
merci,
qui me
Madame
plaît
Fouquet.
Beaucoup. Non, mais qui me plaît, ça me plaît beaucoup parce que ça
on a bien fait de vous inviter, ouais. Madame Fouquet.
Non, mais ça.
Comme ça, vous avez le temps de.
On n'avait pas répété, hein,
déjà. Non, c'est ça, ouais. Donc, ce temps est essentiel pour que les élèves puissent se sentir autorisés à comprendre leurs émotions. Ça me paraît tellement. Enfin, ça me parle beaucoup. Et il faut qu'ils apprennent à les exprimer. Il faut qu'ils apprennent à prendre la parole aussi. Ça se travaille tout petit. Je pense que même il y aura des ateliers, même au sein des écoles primaires. Je pense qu'ils démarreront prochainement et qui sont prévus justement dans les nouvelles.
Dans les nouveaux dispositifs.
Ouais, ouais. Et ça me paraît essentiel que ces jeunes arrivent à verbaliser leurs émotions.
Et, la communication.
Et ça, c'est de la communication. Donc, sur ces ateliers, on y parle de l'adolescence, on y parle de puberté, on y parle des difficultés rencontrées. Tout ça dans des termes généraux, Mais ce n'est pas l'occasion de parler de sa situation de façon individuelle, mais moi, je me rends compte que ça déclenche justement des effets de parole derrière, où les élèves osent venir parler, que ce soit pour eux ou pour les autres, quand une difficulté est rencontrée. Donc, ils y apprennent sur ces ateliers. Enfin, on essaye d'apprendre à se posturer, à dire non quand on a besoin de dire non. Et ça aussi, c'est essentiel. Bon, pour plus tard aussi, hein, dans d'autres dimensions de la santé. Il faut leur apprendre à se renforcer et à comprendre qu'ils peuvent se confier à des adultes. Ça aussi, travailler sur la confiance, c'est essentiel.
Alors ça...
Et les élèves se saisissent, apprendre à faire confiance, c'est pas facile à cet âge-là.
Absolument, oui.
Et là, moi, je me rends compte qu'au fil des semaines, ces ateliers fonctionnent bien, que les élèves se saisissent de plus en plus de ces moments, qui leur offrent cette possibilité de s'exprimer sans être jugé aussi.
Et de se rendre compte qu'on n'est pas seul.
Parce que
souvent,
on
a l'impression
qu'on... Et ça va justement favoriser le lien à l'adulte et l'ouverture de la parole et le fait de briser ce silence. Ouais.
Ce mur du silence.
Eh bien, on parle de communication. Elle peut être sur le tas, ce qui serait mieux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a subi quelque chose, c'est tout de suite qu'on réagit, qu'on en parle directement avec ses camarades ou avec des adultes présents sur l'établissement, à la maison, avec des parents. Mais ça peut aussi venir un peu plus tard. Ce qui n'est pas toujours bienvenu, mais c'est toujours une forme aussi de thérapie. On se rend de plus en plus compte, lorsqu'on tend l'oreille sur des musiques actuelles comme ça qui nous effleurent les esgourdes, qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont subi du harcèlement lorsqu'ils étaient dans des établissements scolaires. Et ils sont nombreux aujourd'hui à écrire par rapport à cela. Voici le titre « Tom » de Bilal Hassani.
Comme si rien ne pouvait l'atteindre, de l'élégance, un sourire qu'on ne peut plus éteindre. J'avoue, ça fait du bien, car Tom ne parle pas. Tom est du genre à se cacher depuis gamin, toujours derrière et pourtant le cœur sur la main. Avant, on ne savait rien, car Tom ne parle pas. Dis-moi ce que tu gardes sur le cœur, je t'entends pas. Dis-moi, ça reste juste entre toi et moi. Dis-moi, plus rien te fait peur qu'aujourd'hui tu vois. Devant toi, regarde, tu peux compter sur moi. Je voudrais t'ouvrir mes bras, tu me demanderais pourquoi. Je te dirai de pas poser de questions ce soir. Je veux chanter ton nom. Il voulait trouver sa place. Seul au fond de la classe, on ne voyait pas Tom danser ce soir. Je crois qu'il est sincère, pas de faux semblants. Il sourit, il a le regard clair. C'est lui qui nous éclaire. Tom ne nous ment pas. Dis-moi ce que tu gardes sur le cœur, je t'entends pas. Dis-moi, ça reste juste entre toi et moi. Je voudrais t'ouvrir mes bras.
Cet homme, et c'est Bilal Hassani dans le carnet de correspondance sur CFM Radio où nous parlons du harcèlement scolaire, comment l'identifier, comment l'aborder avec que ce soit les élèves qui en pâtissent, ceux qui le provoquent aussi, ou même les parents aussi, comment en parler avec les parents. Nous sommes en compagnie de Jean-Marc Robin, de Madame Fouquet du Collège Valserou de Cordes-sur-Ciel. Alors Monsieur Robin, une fois qu'on a bien identifié, qu'on a discuté avec les différents protagonistes, comment est-ce qu'on le traite clairement au sein de l'institution scolaire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prises? Pourquoi? Comment? Et par quel biais?
Alors en fait, tout dépend du stade auquel du harcèlement ou l'intimidation on en est. C'est-à-dire que si on est dans le stade de l'intimidation, si on considère que c'est juste avant le harcèlement, on va pouvoir faire des mesures éducatives, on va pouvoir demander à l'élève de réfléchir, demander de faire un exposé, le faire rester le mercredi après-midi, c'est-à-dire poser une simple punition. Si en revanche, c'est quelque chose qui est un petit peu... Déjà, on est dans le dur, en quelque sorte. Là, on peut prendre une sanction. Alors, les sanctions, bien sûr, ça ne consiste pas à exclure l'élève de la classe hein, pour du harcèlement, mais ça va être de faire une mesure de responsabilisation, c'est-à-dire qu'on va venir le faire travailler le mercredi après-midi, et puis il y aura des entretiens qui vont être menés avec le professeur principal et avec notre infirmière, un entretien de suivi, en quelque sorte. Hein. Mmh. Et bien entendu, hein, on va aussi informer les parents et faire ce travail éducatif. Ça, c'est important de le comprendre, c'est-à-dire que sur les situations de harcèlement, il faut vraiment traiter l'élève qui a été victime de harcèlement et essayer de le suivre hein, pour voir comment il va, est-ce qu'il reprend confiance en lui. Et donc là, effectivement, c'est très important que l'équipe éducative l'entoure. Et puis l'élève harcelé, c'est aussi bien de suivre comment il reprend sa place dans le groupe, le harceleur, pardon, comment il reprend sa place dans le groupe, et puis est-ce qu'il a vraiment changé de son fusil d'épaule et de comportement. Et bien sûr, pour les cas les plus graves, eh bien, il y a le conseil de discipline. Donc, le ministre a été très clair. Hein. Un harceleur avéré, eh bien, il doit parfois changer d'établissement si c'est nécessaire. Ça m'est arrivé de le faire.
Ah oui, d'accord. Oui. Ah oui. Mais avant d'arriver aux sanctions, est-ce qu'il y a d'autres alternatives dont vous pouvez user?
Alors, en fait, c'est tout l'enjeu du plan de prévention du harcèlement. C'est-à-dire que quand on pose une sanction, c'est clairement un constat d'échec. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à faire vivre dans la classe ou dans l'établissement une culture du respect, une culture de la fraternité. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre en place tout ce qui peut participer à cette culture du respect et la fraternité. Donc ça peut être aussi une communication bienveillante. Ça peut être aussi apprendre aux élèves à gérer leurs émotions, à leur apprendre à gérer leurs micro-conflits. Ça peut être développer des méthodes de médiation. En tout cas, tout ce qui permet aux élèves de faire commun, d'être ensemble, ça c'est très important. Moi je dirais tout ce qui participe à ce qu'on soit bien au collège, ça va du cross à l'heure de vie de classe animée par le professeur principal, aux entretiens réguliers avec les CPE, aux petits échanges dans la cour avec le chef d'établissement, enfin tout ce qui permet d'avoir cette culture de la bienveillance, eh bien ça fait descendre la pression. Ça me semble vraiment très important. Alors, tu sais que sur cette question-là, j'en ai parlé à la dernière émission, hein, il y a un chercheur qui s'appelle Picasse et qui a beaucoup réfléchi à cette question-là. Et à partir de sa méthode à lui, Jean-Pierre Bellion, hein, qui est un philosophe français, hein, un auteur en philosophie français, a essayé de développer une méthode qu'on appelle la méthode de la préoccupation partagée. Alors, son idée, elle est très simple et je trouve qu'elle est très intéressante. Elle consiste à mettre l'accent sur la dynamique de groupe et en se disant que...
Monsieur le principal, très demandé.
Situation d'urgence.
Situation d'urgence. Bon.
Mais qui vous harcèle, monsieur Robert?
Je me demande bien. Je crois que c'est une publicité. Tout simplement. C'est du harcèlement publicitaire. Non, ce que je disais, c'est que ce que propose Jean-Pierre Bellon en s'appuyant sur la méthode Picasse, c'est de mettre en place des entretiens avec les cibles, c'est-à-dire les personnes, les élèves victimes, et puis les intimidateurs, des entretiens réguliers, et on est dans une recherche. Alors, avec la victime, on va essayer de le soutenir, de faire ce qu'on appelle l'empowerment, d'être à ses côtés, de renforcer son estime de soi, comme disait Marie-Laure tout à l'heure. Et puis, avec l'intimidateur, on ne va pas être là pour le blâmer, on ne va pas lui faire la morale, on va lui dire... Tiens, tu as remarqué que Léa va pas très bien en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Etc. Essayer de le mettre en position de conscientiser la souffrance ou la difficulté, enfin le mal-être de son camarade, pour qu'à un moment donné, il puisse aussi rentrer dans une recherche de solution. En fait, cette méthode Picasse, elle est très ambitieuse puisqu'elle consiste à dire, y compris l'élève qui harcèle a envie de sortir de la situation de harcèlement et de dynamique de groupe. Donc en fait, on va s'appuyer sur la victime, les élèves harceleurs, en disant qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quelles solutions on pourrait envisager pour que ça s'arrête. Là, l'objectif, c'est pas faire la morale, pas de rendre la justice, c'est que
beaucoup
ça s'arrête.
Beaucoup plus empathique, quoi,
c'est
en fait.
Ouais. Et donc, et là, on peut en sortir. Pourquoi? Parce qu'on va punir personne. On va sanctionner personne. D'ailleurs, quand on intervient avec Madame Fouquet sur les situations qui sont proches du harcèlement ou d'un harcèlement léger, entre guillemets, si ça existe, souvent, on punit pas. On sanctionne pas. On invite les élèves à réfléchir, on les convoque les uns séparément, et souvent on obtient des résultats bien plus probants par la discussion et par l'échange. Et il n'y a pas ce cercle de la vengeance, de représailles. Parce que souvent, ce qui fait peur aussi à la victime, c'est qu'il va se dire, si je vais en parler aux adultes, au chef d'établissement, au CPE, etc., il va y avoir un mécanisme de sanction, ça va prendre des proportions incroyables, et finalement, ça va encore plus... Me pourrir la vie au collège.
Pourrir la vie, oui. Ouais. Alors, Madame Fouquet, Monsieur Robin a commencé à parler de constat d'échec lorsque, pour un établissement, il faut sanctionner un élève. Bon, c'est une forme d'autoflagellation qu'il est en train de faire parce que moi, j'estime qu'il y a d'autres, on va dire, protagonistes aussi qui sont d'importance dedans. Alors, le rôle de l'éducation nationale n'est pas de les éduquer, eux, je pense, aux parents. C'est-à-dire... Vous avez identifié un cas, discuté avec le harceleur. Lorsque vous discutez maintenant avec les parents, est-ce qu'il peut y arriver que ce soit aussi conflictuel avec les parents, pour lesquels souvent c'est peut-être à la maison que ça a commencé, c'est ça qui fait que cet élève est peut-être harceleur à l'école?
Ah oui, vous parlez d'une situation familiale qui peut engendrer le fait que ce jeune soit embêté ou de la réaction des parents.
Voilà, un peu les deux. C'est-à-dire que lorsque... Le comportement d'un élève n'est pas uniquement lié au phénomène de masse, comme on l'expliquait dans le premier numéro, mais plutôt lié à une situation au sein de la famille. Voilà. Là, quel est votre positionnement? Qu'est-ce que vous faites?
Moi, c'est vrai que je passe beaucoup de temps à écouter l'élève. Il faut déjà, effectivement, bien cerner la situation et bien... bien être dans cette écoute et dans cette bienveillance d'écoute. Après, c'est très chronophage, hein, ça prend beaucoup
de
temps.
Là, c'est une thérapie.
Mais c'est vrai qu'il faut vraiment différencier, c'est à chaque élève une situation nouvelle et une prise en charge qui va être adaptée et qui va être individualisée, en fait. Et c'est vrai qu'il faut vraiment être dans cette écoute et dans ce regard croisé.
Mais ce qui peut y arriver, par exemple, qu'on on dise à des parents, écoutez, votre enfant s'est comporté de telle manière à l'école, il y a eu tel problème, mais c'est peut-être relatif à quelque chose qui se passe à la maison. Est-ce que c'est...
Oui, après, c'est compliqué. C'est à vous de faire ça. C'est compliqué parce que c'est très intrusif.
Ben oui.
Alors, l'idée, c'est d'engager le dialogue avec le jeune, mais aussi avec la famille. Mmh. Et quand je dis que ça prend du temps, il faut y mettre les formes quand même, parce que bien souvent, on est sur des souffrances qui peuvent être aussi au sein de la famille. Des parents qui peuvent se retrouver dans un état de culpabilité, c'est vrai, ça c'est compliqué, et que on peut à des moments avoir la sensation d'être un peu intrusif et que les parents se sentent
aussi
en nous disant vous êtes pas à la maison, vous êtes quelquefois on l'a vu des situations qui sont à la maison dont on a connaissance et où on essaye de justement alerter les parents, ou les parents prennent mal le fait qu'on puisse puisse leur donner l'alerte en disant laissez-nous notre intimité de vie, mais c'est vrai qu'il faut il y a toutes ces dimensions à prendre en charge dans le cadre des élèves qui sont en souffrance. Tout cet entourage est à prendre en charge aussi. Faut en prendre.
C'est vrai qu'on a des parents qui sont plus ou moins coopératifs quand on révèle la situation de harcèlement. Quand il s'agit d'élèves harceleurs, on peut avoir des parents qui sont dans la dénégation, pas du tout.
Ouais, c'est ça.
Mon fils, il n'est pas comme ça, on le disait lors de la dernière émission. Et puis d'autres qui sont vraiment dans l'accompagnement, qui prolongent le travail de l'école, et c'est plus souvent le cas du reste, et qui entendent quand, par exemple, nous on dit il faut peut-être mettre en place
des suivis psychologiques.
Et c'est bien de savoir qu'aujourd'hui, on peut rembourser les consultations chez un psychologue. Il y a le parcours psy qui a été créé par le président de la République. Et ça, c'est très bien. Non, en fait, ça dépend un petit peu des familles.
Après,
en général,
les gens
coopèrent.
Ouais.
Les parents ont peur de la sanction. À partir du moment où moi, je commence quand je suis à l'établissement en disant « Bon, on ne va pas au conseil de discipline, on va simplement faire notre travail éducatif. Il faut que ça s'arrête tout de suite dans l'intérêt de tout le monde. » En général, on arrive à la coopération. Alors évidemment, quand on est parent, parfois, effectivement, c'est un peu compliqué.
Après, l'idée, c'est vraiment de faire ce travail avec la famille, parce que on est,
que tout le monde
on travaille tous autour du jeune,
synergie.
Et il faut vraiment qu'on soit.
Bon, si on avait un conseil à donner aux parents, ce serait bien ça, c'est de parler du harcèlement, je veux dire, avant qu'il n'arrive en quelque sorte. Tu vois, c'est un peu comme un train qui va forcément passer devant toi, et de façon à ce que déminer les choses, doter l'enfant de répertoire d'action, c'est-à-dire d'en parler à ses parents, dédramatiser les choses. Que l'enfant se sente... Parce que parfois, on a des enfants qui n'osent pas parler à leurs parents. Ils ont peur de décevoir, peur de paraître faible, peur... ils se font gronder en disant « Mais défends-toi, c'est quoi cette affaire ?» Et donc, il faut faire attention, c'est ça. Il faut que les parents soient toujours dans l'écoute et ne culpabilisent pas leur enfant. Essayent de comprendre. Et puis après, c'est notre boulot avec les parents. On parle de coéducation, de faire grandir les enfants. C'est ce qu'on fait généralement. Peut-être dire un mot, parce que là on a parlé beaucoup du harcèlement, mais rappeler quand même que quand on interroge les élèves sur le climat scolaire, les dernières enquêtes de l'ADEP, division de l'éducation, la prospective de la performance, montrent que 90% des élèves se sentent bien au collège. Donc effectivement, ces phénomènes existent, il faut les traiter, mais c'est heureusement pas
la majorité des établissements. Un dernier mot, Madame Fouquet, notamment à l'endroit des parents, même si Monsieur Robin a déjà résumé pas mal de choses, surtout à l'endroit des parents, parce que tout ne se passe pas au collège, comme on l'a dit.
Absolument.
Par le cyberharcèlement, c'est souvent dans leur chambre ou sur le canapé du salon.
On parle de coéducation. C'est vrai que le jeune est quand même quelques heures au sein du collège. Pardon. Après, côté parental, je pense qu'il faut vraiment que les parents puissent dialoguer avec leur enfant, pas seulement autour du harcèlement, mais dans la vie de tous les jours, que ce jeune se sente regardé
aussi,
et en confiance avec les parents. On le sait, les parents, on a beaucoup de familles où les deux parents travaillent, où ils rentrent tard et où ces enfants vont se retrouver un peu seuls, sans interlocuteur. Et c'est vrai qu'il faut favoriser ces moments de dialogue avec les enfants, savoir aussi les valoriser, savoir les écouter, savoir leur parler et être vraiment dans le fait de repérer et d'être en vigilance dans les changements de comportement sur ces enfants qui peuvent être en situation de en stress, en colère, avec ou en tristesse, ou avec des comportements d'impulsivité, cet isolement, des difficultés de sommeil, tout ça. Il faut que les parents puissent d'être dans le repérage de ces signaux. Et je dirais en plus, alors bon, toute situation confondue, mais je crois que on est quand même à une période où il faut absolument que les parents encadrent l'usage des écrans.
Ah oui, des téléphones portables.
C'est pour ça que j'aimerais qu'on termine, parce que le cyberharcèlement, on l'a évoqué.
C'est ça, mais il y a des tas de choses autour des écrans, il n'y a pas que le cyberharcèlement. Dans le cadre du harcèlement scolaire, on a effectivement les écrans qui sont responsables. On a aussi les règles parentales qui sont quelquefois pas bien fixées, avec une limite d'heure, avec un dépôt de l'appareil dans, je sais pas, le remettre aux parents avant d'aller se coucher. On a des jeunes qui continuent dans la chambre à utiliser leur téléphone portable. Donc effectivement, qui peuvent être ciblés dans le cadre des réseaux ou des réseaux sociaux, juste de l'usage du téléphone avec des envois de photos. Enfin, on a traité récemment des choses de cet ordre-là.
C'est régulier.
Des envois de photos, des photos qui sont diffusées, des choses de... Et ça, c'est une forme de harcèlement aussi, et où on n'est pas dans le cadre des réseaux, mais on est dans le cadre de l'usage de ce téléphone. On est dans le cadre de l'usage du téléphone aussi quand ces enfants dans le bus qui ont des téléphones vont visionner de la pornographie.
On est
dans ce constat-là. Donc tout ça, ce sont des alertes. On est hors harcèlement, on est d'accord. Mmh. Mais tout ça, ça passe quand même par le même outil, par cet outil de communication à la base, qui est un outil de communication où les jeunes peuvent se parler, mais quelquefois mal se parler ou ne pas avoir les bons codes. Donc encadrer l'usage de ces écrans, de ces téléphones, ça, mettre en place ces règles, parce que c'est pareil, ce sommeil tardif lié au téléphone aura probablement une incidence sur la qualité du sommeil, sur les apprentissages, sur la concentration.
Sur leur développement de manière
générale.
Tout ça,
ce sont des liens qui sont à faire. Et voilà, moi je dirais, ouvrons le dialogue, brisons le silence.
Mais vous savez quoi, Madame Fouquet, vous reviendrez, mais d'ailleurs pour qu'on parle de ces fameux écrans. Parce qu'on ne peut pas discuter avec un jeune qui soit collégien, lycéen, sans que la notion de téléphone portable arrive sur la table. Et ce serait bien qu'on y consacre une émission pour en parler.
C'est ça, en fait, cet outil qui est censé rassembler, en fait, est un outil où ils arrivent à s'isoler. C'est un peu
dommage. Ce serait bien d'inviter des élèves aussi.
Donc, alors qu'il est... Oui, c'est prévu aussi.
Ouais.
On ouvre le dialogue, on brise le silence.
C'est le carnet de correspondance.
Et on se revoit bientôt.
C'est le carnet de correspondance. On va terminer, Jean-Marc Robin, par une petite bibliographie pour ceux qui veulent aller un peu plus loin.
Eh oui, tu le sais, Jack, à chaque fois, on essaie de donner quelques éléments de bibliographie. Alors d'abord, un excellent « Que sais-je ?» Tu sais, c'est ces petites collections où on fait le tour d'un sujet en 100 pages. « Le harcèlement scolaire » par Nicole Kathleen.
Et vraiment, c'est très bien fait,
avec de belles explications. Alors, c'est un peu universitaire, bien entendu. Et puis, un ouvrage, tout à l'heure, je citais Jean-Pierre Bellon. Alors, il n'est pas tout seul à être auteur. Il y a aussi Bertrand Cardette et puis Marie Cartier. Un très bel ouvrage publié chez ESF Sciences Humaines qui s'appelle « Harcèlement scolaire, le vaincre, c'est possible, la méthode de la préoccupation partagée » avec des études de cas, avec des pistes. Et c'est vrai que nous, on va justement s'emparer de cet outil-là pour essayer de développer notamment cette méthode qu'on appelle de la préoccupation partagée et qui a fait de bons résultats. Parce que si on croit Jean-Pierre Bellon, eh bien 85% des situations de harcèlement traitées avec cette méthode des entretiens dont je te parlais, ont été réglés et solutionnés.
On n'arrive pas
à solutionner tout, mais si moi je dis qu'une méthode permet de régler 85% des situations, moi je dis que c'est une méthode efficace et nous j'aimerais bien effectivement qu'au collège de Corde on s'en empare.
Eh bien merci à Jean-Marc Robin et Madame Fouquet d'être venus au studio de CFM Radio pour parler de ces questions liées au harcèlement. On reprend déjà rendez-vous avec vous Madame Fouquet pour parler cette fois-ci des écrans
et bien sûr
quelques élèves viendront aussi en parlant. On va se quitter en musique.
On a des projets aussi avec les élèves parlent aux élèves.
Ça c'est chouette, ce sera l'occasion de mettre en lumière tout cela alors. On va se quitter en musique avec à nouveau une chanson qui parle de ce sujet du harcèlement, c'est Azerka et le titre c'est En silence. C'était le carnet de correspondance qui a volontairement débordé sur sa demi-heure impartie, mais le sujet en valait la peine. Merci d'écouter CFM silence. Radio.
Elle va regagner sa place tout au fond de la classe. Tu n'es pas le problème, mais leur bêtise les fait de l'injustice un choix. Encore un jour, encore une heure à supporter. Si peu d'amour, tellement de peur, personne pour l'aider. Toujours ces regards froids qui la tuent chaque fois. Derrière ces formes, un cœur qui bat. Ils ne savent pas. Oublie les dieux et la princesse. À leurs pieds dépose ta détresse. Dans tes yeux toute leur laideur. On passe notre temps à le gâcher, à se voir sans se regarder. La seule beauté, celle du cœur. Tu n'es pas le problème, mais leur bêtise, l'effet de l'injustice, un choix. Encore un jour, encore une heure à supporter. Si peu d'amour, tellement de peur, personne pour l'aider. Toujours ces regards froids qui la tuent chaque fois. Derrière ces formes, un cœur qui bat, ils ne savent pas.
Ils ne savent pas.